Yes! Deuxième édition de la Taverne, version Temps des Fêtes, DLC. Salut!
Hey, bonjour Carl!
Comment ça va?
J'ai pris ma petite voix de gars de bowling ou de mini-pot RDS. Bonjour Carl!
Ou de fond de taverne.
Ouais, ou de fond de taverne si on veut rentrer d'écouter du bowling.
Hey, on en est à une deuxième déjà et il y a du stock. Il y a tellement de stock. Quand on a fini la première l'autre fois, là, on a quoi? On a jasé une trentaine de minutes. Puis je pense qu'on aurait été capable de jaser pendant 1h30 à peu près. Là.
Et ouais, puis tu suis pas le timer. On s'attend quand on se parle, on n'a pas un timer dans notre visage. Puis on n'a pas de rechercher ce qui vient devant notre face en disant couper 4 minutes, 3 minutes. Donc à un moment donné, tu regardes l'heure, tu dis quelle heure qu'on a commencé, donc quelle heure qu'on termine. Donc aujourd'hui, ouais. On va essayer d'être disciplinés. C'est notre mot d'ordre à nous deux. Et j'espère que tu le suivras, mon petit Michel Therrien.
Yes. Hey, juste une petite aparté. On arrive dans le temps des fêtes. Puis dans le temps des fêtes, des choses qui sont intéressantes à surveiller, c'est les championnats mondiaux de hockey junior. Puis là, on sait que dans la prochaine année, ce qui va avoir encore de plus intéressant, les Jeux olympiques du côté de Sochi, où, bon, ça se passe en Russie, les Russes devront avoir des performances incroyables comme on n'a jamais vu. Vous regarderez ça aller, il va y avoir des jeux, j'ai acheté ça. Je suis prêt à peut-être gager ma chemise là-dedans. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec Équipe Canada et un dossier qui fait jaser dans les dernières heures, les gardiens du côté de Team Canada. Luongo, on parle d'une petite blessure dans son cas pour l'instant?
Ouais, gros dossier. Les gardiens de but, ça semble être quasi réglé. Ça semble être numéro 1, numéro 2, Price, Luongo, Luongo, Price. Certains vont dire que Luongo a l'avantage parce qu'il est un vétéran. Moi, on m'a dit l'été dernier que Price avait l'avantage et que c'était à lui de perdre son poste. Chose qu'il n'a pas fait présentement avec des statistiques, disons-le, exceptionnelles. Même les haters de Carey Price doivent s'avouer vaincus et reconnaître qu'il connaît une bonne saison. Ouais. Mais là, boum, petit revirement de situation. Luongo se blesse, bas du corps. On pense que c'est à l'aine. Les blessures à l'aine, souvent, on peut prendre quelques semaines de repos, jouer là-dessus ensuite en étant prudent. Mais un jour ou l'autre, une blessure à l'aine, que ce soit dans les semaines, mois qui suivent ou dans les années qui suivent, vont devoir être traitées complètement. Parlez-en à Carey Price, qui l'année passée, il a joué avec une blessure à l'aine toute l'année. Est-ce que Luongo va être capable de reprendre l'activité bientôt? Est-ce qu'il va avoir un bon niveau de compétition? Est-ce que son aine va l'amener à 98-99% de ses capacités ou à 70-75%? Ça changerait beaucoup pour les Jeux olympiques de Sochi. C'est ce qu'on va vérifier dans les jours qui suivront. Mais je suis persuadé qu'à moins d'un écroulement solide de la part de Carey Price, il sera le gardien numéro 1 à Sochi en février.
Je ne suis pas un grand fan de Carey Price. Dans les dernières années, j'aimais Roberto Luongo. Mais dans les dernières années, mettons, on recule de 4-5 ans. Là. Mais on dirait que dernièrement, puis avec les chokes en règle en finale, pas qu'il ait été si un mauvais gardien que ça. Ça, contre Boston, il y a eu de bons matchs. Mais sauf que quand c'était le temps d'être là, on dirait qu'il n'était pas là. Et si on recule, il y a ça presque 4 ans, aux Jeux olympiques de Vancouver, quand on a envoyé Price devant le filet, là, on va s'entendre qu'on n'a pas gagné la médaille d'or à cause... Pas Price, pardon, pas Luongo. Excuse-moi pour le lapsus. Mais quand on a envoyé Luongo devant la cage du Canada la dernière fois, là, il me semble que c'est pas à cause de lui qu'on a gagné. Puis je le trouve pas stable, mais en même temps, j'ai pas, parce que je suis pas un fan de Carey Price, j'ai pas confiance à 300% en Carey Price non plus.
On parle pas assez de comment ces deux gardiens-là se ressemblent. Carey Price, Roberto Luongo, deux gars, d'abord et avant tout, deux gars sympathiques et drôles, deux gars à bon gabarit, deux gardiens de but gauchers, axés sur la technique. Deux gardiens de but qui doivent se promener avec une étiquette de choker entre parenthèses. Là, je suis pas en train de les critiquer, mais c'est l'étiquette qu'ils portent avec eux. Quand ça compte, Roberto Luongo s'est effondré quelquefois en série, mais en même temps, des fois, les Canucks là, contre les Bruins avaient une équipe B sur la glace. Mais quand même, Luongo se promène avec cette étiquette-là et Price semble l'avoir, cette étiquette-là, attachée dans son dos à Montréal. Donc, deux gardiens qui se ressemblent beaucoup, deux gardiens justement qui se battent pour un poste avec l'équipe Canada. Et là, les dirigeants de l'équipe Canada regardent ailleurs et il y a des gardiens de but qui font bien dans d'autres nationalités. Mais eux n'ont pas un choix clair, net, précis, sans ambiguïté qui plaira à tout le monde. Ils doivent prendre une décision entre les deux. Et peu importe on y va avec qui, on aura toujours la peur ou le doute que cette étiquette de choker-là revienne. Mais tu sais, entre toi et moi, là, tu sais, les chialeux sur Price, les chialeux sur Luongo, puis tu sais, je suis pas le fan le plus fini de Carey Price, ni de Roberto Luongo, mais on regarde ça avec des yeux de gars qui suivent les activités. Mais les gars à l'intérieur ont très confiance en Carey Price, et ils ont très confiance en Roberto Luongo. Donc, nous, on regarde ça à l'extérieur, mais de l'intérieur, je pense que l'équipe Canada va quand même être à l'aise d'y aller avec Carey Price pour cette année. Dans 4 ans, y aura-t-il d'autres gardiens plus stables ou Carey Price sera-t-il devenu enfin le gardien qu'on attend de lui, c'est-à-dire l'un des 3-4 meilleurs de la LNH? Gros point d'interrogation, mais à court terme, on se répète, pas de blessure, pas d'effondrement de dernière minute, pas de commotion cérébrale, pas rien. Carey Price devrait être le numéro 1 de l'équipe Canada.
En même temps, ça va se jouer dans les matchs hors concours, donc on va voir comment ça se passe. Ça peut arriver qu'il y en ait un qui sorte mieux que les autres, qu'il y en ait un qui, dans cette période-là de son année ou de sa carrière, va jouer au-dessus de sa tête, puis c'est ça qui va faire la différence. Donc, un ou l'autre, ça peut être bon, puis des fois, on peut peut-être avoir des surprises, mais faut pas oublier qu'il y a une couple de joueurs à l'avant qui vont être assez performants pour le Canada. Il y a une couple de défenseurs aussi. Et comme je te disais tantôt, moi, j'ai hâte de voir l'équipe des Russes. Parce que là, présentement, on va être en Russie. Est-ce qu'on va l'échapper autant, en parenthèse, comme on l'a fait dans d'autres tournois mondiaux ou aux Olympiques? Les Russes ont toujours tendance à, tu sais, s'enfarger les pieds dans le tapis le soir avant
faire,
le final ou un match important.
Faire ce que les Suédois ne font pas, disons.
Exactement. Prendre un coup, partir avec tout ce qu'il y a de filles du bord, puis après ça, ben, le lendemain, ben, advienne que pour eux, on jouera notre match, puis on va essayer de gagner.
Toi, t'es un gars de pas loin de Québec, en Beauce. Je sais pas si t'as entendu les mêmes échos que moi, mais quand il y avait un championnat junior avec Kovalchuk, c'est-tu un championnat junior, un championnat senior? Je pense que c'était junior là, dans ces années-là.
Non, c'est le championnat mondial de hockey, là, celui qu'on a au printemps, là, les joueurs
éliminés. Ah, exact. Bon, le championnat du monde senior, j'en avais entendu des belles sur Ovechkin et Kovalchuk d'une personne interposée, mais bien de la personne directement impliquée dans ce qu'on parle, là. Alors, c'est vrai que quand ils sont loin de chez eux, ils peuvent s'accrocher les pattes. Est-ce qu'ils se les accrocheront en Russie? Je ne sais pas. À vrai dire, je m'en fiche un peu. Mais j'aimerais ça juste revenir sur un petit quelque chose que tu as amené. Tu parles de feeling, de dernière minute, de tu sais, est-ce qu'un gardien va être plus hot qu'un autre à ce moment-là précis? C'est très vrai, mais en même temps, les décideurs de hockey essaient de voir ça outside of the box, de plus loin. Parce que si on choisissait juste les gars qui sont hot depuis, je sais pas, une semaine, un mois, deux mois, mais Josh Harding serait le premier goaler, puis tu sais, il y aurait des défenseurs qui seraient plus là, puis il y en a d'autres qui se rajouteraient. Donc, c'est dur de trouver le juste milieu entre la séquence présente, la séquence récente, et l'ensemble de l'œuvre et le potentiel et le caractère des joueurs. Et on a beau chialer ou critiquer ou faire nos choix, nous autres, sur des papiers puis des documents Word, je suis quand même très content de ne pas avoir à prendre des décisions finales parce que peu importe celle que tu prends, si tu reviens pas avec la médaille d'or ou la médaille d'argent, tout le Canada va critiquer tes décisions et là, si c'est le négatif qui embarque, etc. Donc, je vais laisser la prise de décision à d'autres.
Tu sais, des fans de hockey comme les gens sur danslescoulisses.com, comme toi, comme moi, on a les Olympiques qui s'en viennent, on va triper quand on va regarder les matchs de hockey, mais la question qu'on s'est posée tantôt avant de commencer l'émission, la stratégie de la Ligue nationale de hockey présentement pour ces Winter Classic. Là, il y en a une qui s'en vient entre les Red Wings de Détroit et Toronto. Je ne sais pas si tu as regardé les premiers épisodes du 24-7, là, toujours bien intéressant. Et là, après ça, on va se diriger vers une classique héritage. Il y aura aussi les Stadium Series. Les Ducks qui vont affronter Los Angeles le 25 janvier. Après ça, tu as les Rangers au Yankee Stadium contre New Jersey le 26 janvier. T'en as un autre le 29 janvier, encore une fois au Yankee Stadium. Puis t'en as un peu plus tard, le 1er mars, à Chicago, les Penguins contre les Hawks. Il y en a du match extérieur, là.
Tu sais, on est parti de deux matchs extérieurs, un match. On est allé à deux avec le Winter puis l'Héritage. On a vu qu'il y avait tellement d'argent à faire avec ça. Autant sur place parce qu'on vend des tickets beaucoup plus chers et en beaucoup plus grande quantité. Là, il y a beaucoup de villes qui voulaient appliquer pour, de un, faire plus d'argent elles-mêmes, et de deux, la LNH fait plus d'argent avec ça, et de trois, avec le partage des revenus, ben tout le monde se ramasse à faire plus d'argent. Et donc, qui va dire non? Le partisan, lui, à la base, il en veut. Peut-être se tannera-t-il, mais en ce moment, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, et il est chaud. Donc, la LNH est rendue à 6 matchs extérieurs. comme tu dis, là, 1er janvier, 25 janvier, 26 janvier, 29 janvier, 1er mars, et je pense que le dernier, le 2 mars, c'est beaucoup. C'est un risque. Je suis pas certain que je vais écouter les 6 rencontres avec autant de passion. Le Canadien ne dispute aucun de ces matchs extérieurs-là. C'est un peu plate, les partisans d'ici. Mais en tout cas, on va suivre ça du coin de l'œil. Mais disons qu'on pousse peut-être un peu fort ou qu'on pousse peut-être un peu notre luck du côté de la LNH.
Le premier, on va le regarder. Ça va être premier dans l'année. Puis le deuxième, au Dodgers Stadium à Los Angeles, ça peut arriver qu'on regarde voir si la glace va fondre et si va en rester, là. C'est un deck hockey qu'on va faire cette journée-là.
Comme le camp d'équipe Canada, là. C'était où dans l'Ouest, à Calgary?
À Calgary, quand on a eu des inondations l'été passé, là. On a fait le camp en bottine, comme on dit.
Ouais, on n'avait pas d'assurance en plus. Ça faisait un peu broche à foin, là. Tu sais, on n'aurait pas pu prendre une partie des revenus d'une des quatre Stadium Series pour mettre des patins aux joueurs dans le camp d'entraînement. En tout cas, whatever. C'est pas, on s'éloigne un peu du sujet, mais j'ai hâte de voir si les gens vont embarquer autant dans toutes ces parties extérieures-là. À un moment donné, s'il n'y a plus de magie avec ces parties extérieures-là, ça reste des games où les gens sur place ne voient pas très bien, où la glace n'est pas très belle.
Et pour les joueurs, c'est pas l'expérience la plus fun du monde. Pour le match, pour l'événement, c'est correct. Mais quand tu joues un match, tu le sais, quand tu joues dans un aréna régulier avec une glace artificielle, puis quand tu joues à l'extérieur, c'est deux mondes complètement différents. La maniement de rondelle n'est pas pareille. La façon que tu vas prendre tes lancers, la façon que tu vas t'exécuter, hey, ça commence à faire une différence pas pire, là.
Ouais, surtout pour les Rangers qui se battent déjà avec une glace qui n'est pas toujours top qualité au Madison Square Garden. Là, vont jouer deux matchs extérieurs. Probablement que ces gars-là ont hâte de revenir à Montréal, arriver jouer sur une belle surface, un centre belle, pas trop hostile, mais quand même très plaisant, puis sortir sur la Saint-Laurent. Donc, je suis certain que ces joueurs-là préfèrent certains types de rencontres à ces rencontres extérieures. Là, comme on le dit, une fois de temps en temps, c'est parfait, là, des rencontres extérieures. Mais trop, c'est peut-être comme pas assez, surtout dans ce dossier-là.
Jason du Canadien de Montréal, il y a une rumeur qui a commencé à circuler, que vous avez déjà sorti depuis un bout de temps, où on parlait d'échanges possibles entre Max Pacioretty et un certain Rick Nash.
Ouais, on avait sorti ça le 16 novembre dernier. On avait reçu plusieurs critiques au moment de publier ça. On avait dit, attention, on n'a pas dit que Pacioretty va être échangé contre Nash. On a dit que Pacioretty est magasiné et que les Rangers ont mordu au bout du fil et que les Rangers ont envoyé au moins une personne à une reprise à Montréal négocier. Et que le Canadien a envoyé au moins une personne à une reprise à New York négocier. Marc Bergevin aurait pris part à au moins une de ces discussions-là, ces deux fois-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne le sais pas. Je ne connais que quelques infos sur le Canadien. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais ces infos-là, je crois en ces sources-là, en ces infos-là. Et là, le temps nous donne raison. Un mois et demi plus tard, ça commence à sortir. Hier, c'est sorti dans le New York Post. Ça sort directement de New York. Vous se demandez pourquoi ça sort là. Est-ce que les Rangers sont offusqués que le Canadien soit trop gourmand et tiré sur la plug? Est-ce qu'ils veulent brasser les choses? Est-ce qu'ils veulent juste justement un peu de revanche face à une équipe qui veut pas la boucler, la terminer cette transaction-là? Je sais pas, mais il y a eu plusieurs noms mentionnés dans ce dossier-là. Chez le Canadien, j'ai entendu parler de Max Pacioretty, de David Dernais, qu'on aimerait bien envoyer avec Pacioretty si Pacioretty quitte. J'ai entendu parler de Jared Tinordy, qui était beaucoup en demande du côté de la volonté des Rangers, mais que le Canadien ne voulait pas s'en départir. Les Rangers aiment bien Darren Deed, ils ne sont pas prêts à donner la lune pour, mais ils l'aiment bien. On aurait parlé de Nathan Beaulieu, pas très, 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 très fort là-dedans. Les Rangers sont encore en amour avec Brandon Prost, ça me surprendrait énormément qu'ils quittent. Et du côté des Rangers, les noms qu'on entend, c'est Derek Stepan, Rick Nash, Brian Boyle. Derek Brassard aurait même sorti dans une des discussions, ça m'a surpris, il y a beaucoup de centres chez le Canadien, mais en même temps, des parties de Dernais, faut que tu remplaces un centre, un joueur francophone d'ici. Et Larry Brooks du North Post parle de Ryan McDonough. Ça me surprendrait énormément. Mais bon, on va lui laisser son nom, sa nouvelle. Là. Peut-être qu'il a la bonne info là-dessus que j'ai pas eu. Mais beaucoup de noms qui sont discutés. Et ça nous amène à une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais j'ose la poser quand même. Pourquoi échanger Max Pacioretty, qui est ton meilleur attaquant lors des deux dernières saisons et qui, depuis qu'il s'est réveillé, c'est en ligne pour être encore une fois le meilleur attaquant, le meilleur buteur, le meilleur pointeur, quelque chose là-dedans chez le Canadien cette année. Très bonne question à poser.
Surtout si tu l'échanges comme un gars comme Rick Nash. On sait que ce gars-là a du talent, mais quand, admettons, la transaction est acceptée demain matin puis les deux gars transfèrent, est-ce que Rick Nash va donner des belles prochaines saisons à Montréal ou ça va être un gars qui va être encore en pente descendante puis amènera rien? Mais en même temps, si tu veux échanger un gars comme Pacioretty, si tu es capable d'aller chercher plus ou des éléments nouveaux qui vont amener à ton équipe, ben c'est le temps de l'échanger ou jamais. C'est comme un jeu de dés. Tu peux prendre des décisions et espérer de voir ce qui va se développer avec ça, mais ça ne veut pas dire que demain matin, ça va être la solution parfaite. Anyway, les solutions parfaites, il n'y en a pas. Est-ce que le Canadien, ces temps-ci, en cherchant une solution parfaite, est-ce qu'on aurait trouvé des éléments, des rumeurs de transactions de ton côté, je pense, hein?
Ben écoute, sur Pacioretty, il n'y a pas juste les Rangers, tu sais, on en parlait là. Il y a beaucoup de personnes là, qui voient Pacioretty plus gros qu'il est. Comme on dit, c'est le meilleur joueur du Canadien, il est très bon, il a un excellent contrat avec lui, il est pas vieux. Par contre, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Quels sont-ils? Je ne veux même pas entrer nécessairement dans les spéculations, mais il y a des trucs qu'on ne sait pas. Pourquoi on magasinerait un grand attaquant qui produit à Montréal quand le problème est de compter des buts et d'être grand, justement. C'est sûr que c'est pas le meilleur gars pour donner des mises en échec, mais il répond quand même à un besoin du Canadien. Pourquoi veut-on l'échanger? Écoute, tout le monde va avoir sa petite opinion. On va peut-être en apprendre plus un jour ou l'autre, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose hors glace par rapport à Pacioretty. Et tu sais, on parle de Rick Nash. Rick Nash est un meilleur joueur que Max Pacioretty. Il a fait des commotions. Est-ce qu'il, tu sais, il approche la trentaine? Est-ce qu'il aurait beaucoup de bonnes années à donner aux Canadiens? Je tends à dire oui, mais comme tu dis, c'est un coup de dé et on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Maintenant, tu me dis qu'est-ce qu'on a comme rumeur chez le Canadien. Il y a plusieurs trucs qui sortent à gauche et à droite. Il y en a beaucoup qui disent que René Bourque est à échanger. Moi, je peux te confirmer que le Canadien a essayé au moins à une reprise dans la dernière année d'échanger René Bourque sans succès. Est-ce qu'il est encore sur le marché? Est-ce qu'on tente encore activement de trouver preneur? Je ne le sais pas. Daniel Briard, même chose, est tanné d'être ici. Mais c'est pas vrai. Il n'est pas tanné d'être ici, je reprends ma phrase. Il est tanné d'être ici selon les conditions actuelles, donc veut que les conditions de l'entourant changent ou il aimerait quitter. Est-ce que Marc Bergevin trouvera une équipe intéressée à Daniel Briard? Je le sais pas. David Desharnais a été magasiné, du moins l'année passée au repêchage, en début de saison cette année. Il semble pas avoir de preneur, donc est-ce qu'il restera ici encore longtemps? Brian Gionta, dernière année de contrat, capitaine du Canadien, petit attaquant, on veut se grossir avec du talent à l'attaque, donc est-ce qu'on échangera Brian Gionta pour faire de la place à un plus grand attaquant ou on attendra tout simplement que son contrat vienne à échéance? Et le dernier joueur, Travis Moen, maintenant qu'il s'est replacé, qui joue un peu mieux, est-ce que ce serait le temps de le mettre sur le marché? Gros point d'interrogation, je ne le sais pas, je sais qu'il a déjà été magasiné l'année passée, Marc Bergevin n'a pas eu son prix, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est les 5 attaquants dont le nom revient le plus souvent avec celui de Pacioretty dans les rumeurs de transactions.
Et le Canadien, de son côté, ne veut pas aller chercher un joueur des Panthers de la Floride, selon tes infos?
Oui, c'est la petite info exclusive ou privilégiée de cette édition 2 de La Taverne. Bonne petite source qui m'a donné... tu sais, j'aime pas ça faire ça, là, mais peut-être un gars qui frappe pour 70%, c'est-à-dire m'a donné peut-être 7 bons tuyaux en carrière et m'a donné 3 infos qui malheureusement ne se sont pas avérées vraies. Donc, je suis encore en train de vérifier ça, mais là, on se parle. Le Canadien regarderait du côté de Drew Shore chez les Panthers de la Floride, centre droitier, 22 ans, américain, de bonnes stats dans le NCAA, de bonnes stats dans la AHL, n'a jamais réussi à faire sa place vraiment dans la NHL. Shore, c'est un centre qui pourrait être défensif, et c'est un centre qui est un très bon passeur et non pas un scoreur. Donc, chez le Canadien, on a besoin d'un centre pour préparer les jeux, un peu comme Desharnais le fait dans ses bons matchs, là. C'est un peu le même genre de centre, mais beaucoup plus grand, droitier, capable de jouer plus robuste, plus jeune. Donc, qu'est-ce que Drew Shore coûterait? Pourquoi Dale Talon, qui connaît bien Marc Bergevin, pourquoi Dale Talon et les Panthers s'en départiraient? Est-ce que c'est juste un joueur que le Canadien vise ou est-ce que c'est un gars qui est définitivement sur le marché et que le Canadien songe à peut-être mordre? J'ai pas cette info-là, mais Canadien et Panthers discutent de Drew Shore, donc à surveiller. Ça fera pas la une dans le Journal de Montréal demain, mais c'est quand même une belle petite info.
En terminant, en rafale, quelques petites infos comme ça qu'on a de côté. Est-ce que notre ami Gallagher a vraiment un sandwich au McDo? Le Gallagher Burger?
Le Gallagher Burger disponible très bientôt dans tous les McDonald's participants du Québec. 3 boulettes, je pense qu'il y a du bacon, du fromage avec tous les trucs là-dedans. Là, il y en a qui vont chialer, ben c'est pas santé. Tu sais, le Canadien s'associe à quelque chose qui n'est pas santé.
Pas grave ça, là.
Tu sais, en même temps, Alexandre Despatie s'est associé à McDo, puis c'était un athlète amateur. Faut en prendre puis en laisser. Mais chose certaine, il y aura des gens qui iront tester ce hamburger-là et qui se sentiront peut-être plus près du joueur ou du Canadien. Il y a des liens qui se passent bizarres des fois chez certains, mais en tout cas, le Gallagher Burger à essayer. Je me demande si je vais l'essayer un midi, un soir ou peut-être un début de nuit. En tout cas, on va voir le Gallagher Burger.
Tu sais, t'as deux choix de menu, un midi ou le souper. Tu prends un Gallagher Burger ou les vieilles saucisses Gomez à Montréal, tu choisis quoi? Facile la réponse.
Les saucisses Gomez.
Ça, c'est quoi quand il faisait combien? S'il marquait un but, on donnait un paquet de saucisses. C'était ça la promotion qu'il y avait, hein?
Exact, c'était en banlieue de Montréal, je me souviens pas la ville exacte, la Chenet ou la Valtry ou la Norel, ça commençait par là. On donnait un paquet de saucisses à Gomez, s'il comptait, puis je me souviens pas combien de temps la promotion a duré. Je suis même pas certain que Gomez a compté durant la promotion.
Je pense pas, il y a pas eu beaucoup de paquets de saucisses qui se sont donnés. Autre sujet, les gens d'RDS ont eu leur cadeau de Noël en fin de semaine?
Ouais, exact. RDS avait son party de Noël vendredi soir, vendredi midi ou après-midi, je me souviens pas l'heure exacte. On a sorti que la station gardait 60 matchs, ou peut-être un petit peu moins, mais on parle de 60 matchs réguliers, pas de série, plus les matchs préparatoires. Donc, c'est beaucoup. C'est un match sur, c'est trois matchs sur quatre en saison. Donc, OK, on n'a peut-être pas le samedi, mais on va avoir les matchs de semaine. On va pouvoir remplir notre contenu durant le match. Ça va être facile d'amener les gens dans l'avant-match et ça va être facile de les garder pour l'après-match, après l'antichambre, etc. Donc, beau petit cadeau et le partisan en est gagnant totalement. Quand il y a un monopole, on le sait, le produit vient à ouais. décliner, la qualité vient à diminuer. Donc là, on n'a plus de monopole, on a TVA et TVA Sport d'un côté, on a RDS de l'autre côté, donc les deux vont se battre pour offrir un meilleur produit que le concurrent. Donc c'est excellent pour le partisan et même s'il doit s'abonner à une deuxième chaîne, je veux dire à peu près tout partisan de hockey est abonné à RDS. Puis c'était déjà vendu les matchs nationaux à TVA il y a 2-3 semaines à TVA Sport. Donc le fan s'abonnait déjà à une deuxième station, donc là, il est déjà abonné à RDS, ça change rien, là, puis c'est 2-3$ par mois. Pour 2-3$, vous allez avoir un meilleur produit, donc on est tous gagnants.
Il y a un article de Pierre Duhamel de l'actualité qui est sorti ce matin qui jasait justement de ça, des droits de télé versus RDS et TVA Sport. Et ce que lui amenait comme point, et il a totalement raison, prenez l'exemple, pour que TVA Sport, on ait de bonnes cotes d'écoute, oui, on va voir des matchs canadiens le samedi soir, puis peut-être quelques-uns le mercredi. Mais ça va prendre le Canadien en série, parce que si le Canadien n'est pas en série éliminatoire, oublions pas qu'au Québec, et surtout dans votre coin à Montréal, quand le Canadien est éliminé, le hockey n'existe plus. C'est pas des fans de hockey qu'on a souvent, c'est des fans d'une seule et unique équipe, le Canadien de Montréal.
Ouais, j'aime pas ta petite attaque. Je pense pas qu'en Beauce, les gens soient beaucoup plus, par proportion, fans de LNH, puis qu'ils écoutent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matchs de sénateurs à TVA Sport.
Mais bon, j'ose le croire, mais ouais, j'ai probablement pas raison.
Alors, on se taquine. Mais non, t'as parfaitement raison. Il faut que le Canadien fasse les séries, surtout l'année prochaine. Et il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a quelque chose qui s'appelle les Nordiques. J'ai pas de nouvelles, j'ai pas de scoop à donner, mais depuis un mois, la Ville de Québec s'est positionnée de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus près du sommet dans son dossier des Nordiques de Québec. Est-ce que ce sera une expansion? Est-ce que ce sera un déménagement d'une concession comme les Panthers de la Floride? Il y a plusieurs rumeurs qui circulent en corridor, en coulisses. Il n'y a personne qui a encore la réponse. Si on se souviendra, il y a un an ou deux, là, il y a 2 ans, il y avait eu une conférence de presse qui avait été annulée à Québec. On était sur le point de mettre la main sur les Coyotes. On ne le saura jamais jusqu'à la dernière seconde. Mais il y a certainement, et il y a assurément un dossier nordique dans tout ça. Michel Bergeron n'a pas fait le switch pour rien. Renaud Lavoie non plus. Québécois n'a pas investi autant d'argent que ça pour 22 matchs canadiens, j'y crois pas. Donc, c'est ça. Ça serait une excellente nouvelle. Et avec tout ça, ben, on revivrait et on le parle. Il n'y aurait plus de monopole. Donc, deux équipes. On ne parle plus de deux réseaux télé. On parlerait de deux équipes qui devraient travailler encore plus fort qu'elles ne le font déjà, du moins pour le Canadien, pour aller chercher le cœur des partisans, et qui dit concurrence au lieu de monopole, dit partisan, dit consommateur, dit client plus satisfait. Et c'est ça qu'on veut au Québec, le retour d'une deuxième équipe. Qu'on aime ou non les Nordiques, il faut vouloir, il faut souhaiter, il faut rêver au retour des Nordiques.
En terminant, 30 secondes, Adonis Stevenson, l'homme, la victime du Québec, c'est lui qui a traité récemment les Québécois de racistes parce qu'on n'acceptait pas vraiment ce qu'il était ou ce qu'il avait fait. C'est un bonhomme particulier et j'ai vraiment beaucoup de difficultés à avoir du respect envers ce gars-là.
Quel boxeur!
Oui,
quel
oui,
boxeur.
Oui!
Quel boxeur!
Mais quelle tête ouais. tout croche en haut, là!
Ouais, a publié une vidéo là, où il conduisait, puis il disait « Soyez prudent sur la route », puis là, il montrait la route, puis il se montrait en train de filmer, puis il montrait la route, puis il se montrait en train de conduire. Pas très brillant. En même temps, le Québec n'est pas raciste. Ou il l'est peut-être, je ne sais pas, là, j'ai pas d'études, mais c'est pas à cause de sa couleur de peau que le Québec ne le supporte pas en entier, parce qu'il y a des fans de Stevenson au Québec, mais s'il y en a qui ne l'aiment pas, c'est pas à cause de sa couleur de peau, c'est à cause de son passé et surtout de sa volonté inexistante de se repentir et de demander pardon à ses victimes et de demander pardon au peuple québécois. Il ferait ça une fois, là. On aurait notre histoire.
Ce gars-là a été... Ce gars-là n'a pas été mal conseillé, il est tout croche de toute façon, mais si quelqu'un l'avait mieux pris en disant « Hey Adonis, là, ton histoire, on va sortir au complet, tu vas aller au bat, tu vas dire tout ce que tu as fait, on va régler ça une fois pour toutes, après ça, on va passer à autre chose. » Mais lui, il l'a fait de façon tout croche, puis il sort. Hey, j'ai vraiment de la difficulté et ouais. je ne vois pas le jour où je vais payer pour aller voir un match de boxe d'Adonis Stevenson. Je suis pas capable.
Mais
c'est impossible pour moi.
Il faut faire attention. Yvon Michel a essayé de faire ce truc-là. Le voyant que ça ne marchait pas, là, il est rentré dans la stratégie de tout taire. Et quand c'est ressorti, Yvon Michel, et je te le confirme, là, à la seconde c'est sorti, avant le combat, après le combat, depuis, encore présentement, il essaie d'amener Adonis Stevenson à faire des excuses pour qu'on puisse tourner enfin la page sur ce dossier-là et que ceux qui en parleront encore ouvertement et publiquement dans les années à venir passent pour des gars et des filles qui refusent de tourner la page, qui s'acharnent. Mais pour ça, ça prendrait une belle annonce, ouais. de belles excuses. Et ça, Yvon Michel aimerait que ça vienne, son équipe aussi, mais ça semble pas être le plan de Adonis Stevenson pour l'instant. Ça peut encore changer. Moi, j'ai aimé l'article de François Bougingo dans le Journal de Montréal, dans le blog du Journal de Montréal, François Bougingo a eu deux articles sur Haïti, sur le fait que Adonis Stevenson soit ambassadeur d'Haïti. Écoutez, tapez ça sur Google, allez lire les deux articles, c'est incroyable à lire. Après ça, vous pouvez garder votre vieille opinion si vous êtes pro-Stevenson malgré tout, là. Je veux dire, c'est très, 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 très bien écrit et ça résume bien ma façon de penser. De la bouche de quelqu'un qui est loin du sport, de la bouche de quelqu'un qui fait des trucs internationaux, politiques, etc., généralement, c'est excellent. Allez taper ça. Adonis Stevenson, François Bougingo, Journal de Montréal, blog, Google, vous allez tomber là-dessus. C'est à lire absolument.
Une autre édition de La Taverne terminée. Ça a passé vite. Encore une demi-heure, mon garçon.
Il va falloir couper, je pense, mais regarde, j'avais plein de scoops, mais je les donnerai pas.
OK. De toute façon, on est capable de lire à peu près tout ce qui se passe sur danslescoulisses.com, sur les nouvelles. Manquez pas ça. Puis nous autres, on se dit à une prochaine, dans la prochaine semaine.
Exactement, sans faute. Joyeuse fête à tout le monde qui nous écoute, by the way.
Yes, merci d'avoir été là. Puis on vous rappelle, s'il y a des gens qui veulent devenir partenaires de La Taverne, on est ouvert. On a un gros pitcher de bière qui est prêt pour vous. Quelques petites rondelles d'oignons, des ailes piquantes qui attendent dans le coin. Salut, à la prochaine.